France Inter.
Le 13-14, Céline Asselot.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire du 13-14. Il s'est rendu de lui-même accompagné d'un avocat et d'un proche dans un commissariat de Toscane. Trois jours après l'attaque au couteau dans une mosquée du Gard, le suspect, 21 ans, est désormais aux mains de la police. Quel est son profil, ses motivations? On fera le point alors que le drame a provoqué l'émoi au sein de la communauté musulmane où l'on a critiqué le manque de réaction politique. Il n'y a pas de poids, de mesure, réagit le gouvernement aujourd'hui. Autre enquête que l'on détaillera au cours de ce 13-14, celle concernant les faits commis contre des prisons et des agents pénitentiaires. 25 personnes interpellées ce matin, 200 enquêteurs mobilisés. Dans les prochaines minutes, on prendra aussi la direction de Rome, où le conclave se précise, de Moscou, où l'on remercie la Corée du Nord pour son engagement militaire. Et puis on parlera de ce grand ménage en vue dans les agences et les opérateurs de l'État. Bonjour Luc Chemin.
Bonjour.
Un tiers sera supprimé ou fusionné. C'est l'annonce de la ministre Amélie de Montchalin.
Oui, proposition pour faire 2 à 3 milliards d'euros d'économie, mais quel avenir pour les 180 000 agents concernés? Il existe des solutions pour éviter une casse sociale, dit la ministre. Ne saisissons pas la contrainte budgétaire pour faire trop vite tout et n'importe quoi, s'inquiète la CFDT, vous l'entendrez.
Et on y reviendra avec vous, Luc Chemla, et puis avec notre invité. Est-ce que c'est la bonne solution pour faire des économies? On va poser la question à François Eckhall, grand spécialiste des finances publiques. Et j'attends d'ailleurs vos questions 01 45 24 7000. On découvrira aussi ces nouvelles lunettes connectées qui pourront traduire en direct ce que la personne dit en face de vous. Et puis on pose à la porte d'une classe de Haute-Vienne qui participe au concours organisé par France Inter, l'école des Odyssées.
Ça consiste à créer un podcast, une petite histoire sur quelqu'un de réel.
Ça permet de créer du lien, de sortir un peu du scolaire et de l'exercice de grammaire, hein, ou de conjugaison.
Voilà, apprendre autrement, Lisa et son enseignant dans ce premier épisode, à retrouver d'ici trois quarts d'heure. Voilà pour le programme, c'est parti pour le 13-14.
France Inter.
Des tirs de mortier d'artifice, voire de kalachnikov sur les murs des prisons, des voitures incendiées, des maisons taguées. Ces derniers jours, les agents pénitentiaires ont été la cible d'une série d'attaques de la part d'un groupe au nom mystérieux des DPF pour défense des droits des prisonniers français. Alors le gouvernement en avait fait une priorité, Gérald Darmanin affirmant que les plaintes des agents avaient été priorisées. Et voilà qu'une grande opération a donc eu lieu ce matin. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
25 personnes interpellées, en tout cas à ce stade.
Oui, un peu partout en France, Lyon, Marseille, Bordeaux, Valence, entre autres, dont 5 personnes extraites de leur cellule de prison. Et parmi ces détenus, l'homme soupçonné d'avoir créé le groupe de discussion Telegram baptisé DDPF et d'avoir donc, à travers ce canal, incité à passer à l'acte. C'est sur ce fil qu'ont été diffusées les premières vidéos des incendies de voitures le 13 avril. Et ce sigle DDPF a ensuite été retrouvé pratiquement sur chaque lieu d'incendie ou d'attaque. Ce possible créateur de la boucle Telegram est présenté par des enquêteurs comme proche de gros trafiquants de drogue, tout comme un autre suspect interpellé ce matin, soupçonné lui d'appartenir à la DZ Mafia, cette bande désormais bien connue de narcotrafiquants.
Et d'importants moyens ont été déployés, hein. 200 enquêteurs travaillent sur cette série d'attaques.
Oui, aidés par un très gros travail de police scientifique. Pour vous donner une idée, le parquet antiterroriste qui coordonne l'enquête s'est saisi de 15 faits dans toute la France et à chaque fois, les lieux ont été ratissés, évidemment, à la recherche du moindre indice qui aboutit à l'analyse de plus de 260 scellés et de millions de données de téléphone. Selon le parquet antiterroriste, ces traces ont permis d'identifier des personnes soupçonnées d'avoir directement commis des actes malveillants, mais aussi donc de possibles commanditaires. La garde à vue de ces 25 suspects peut durer jusqu'à vendredi matin.
Merci pour toutes ces précisions, Ariane Grissel, service police-justice de France Inter. Venons-en à cette autre enquête où le gouvernement, là aussi, avait fait part de sa détermination, de sa volonté d'aller vite. Trois jours après la mort d'un fidèle musulman poignardé à la mosquée de la Grand Combe, dans le Gard, le suspect s'est rendu hier soir tard à la police. C'était en Toscane, où il avait pris la fuite. Il était accompagné d'un avocat et d'un parent, c'est ce qu'indique aujourd'hui la police italienne. Alors il devrait être rapidement remis aux autorités françaises. En tout cas, la France lancera une procédure d'extradition très rapidement, dit le procureur de la République d'Alès. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Alors est-ce qu'on en sait plus sur le profil de ce jeune homme?
Oui, durant trois jours, les 70 enquêteurs qui ont traqué ce suspect ont considéré cet homme né à Lyon en 2004 d'une famille rome originaire de Bosnie comme potentiellement extrêmement dangereux. Le procureur de la République d'Alès, Abdelkrim Grini, l'a redit ce matin chez nos confrères de BFM. Ce suspect, lorsqu'il avait enregistré sa vidéo vendredi matin filmant sa victime agonisante, avait également menacé de tuer à nouveau, comme s'il avait envie d'être considéré comme un tueur en série. Propos malgré tout décousus, ce qui a fait dire aux enquêteurs que le mobile de l'islamophobie n'était peut-être pas la première des motivations de ce passage à l'acte, même si elle est encore privilégiée à ce stade. Après l'audition de plusieurs témoins ce week-end, une source proche du dossier évoquait une possible crise de démence d'un jeune homme en proie à des accès de violence. Reste à savoir s'il n'a pas été instrumentalisé par un ami ou un membre de sa famille. Est-ce qu'un complice ou plusieurs complices l'attendaient déjà à la sortie de la mosquée de la Grand-Combe pour aller se cacher dans un premier temps à Servian, c'est entre Béziers et Montpellier, vendredi, avant de s'enfuir vers l'Italie en voiture. C'est ce que supposent les enquêteurs qui tentent d'identifier d'autres personnes impliquées dans ce crime.
Merci pour toutes ces précisions, Emmanuel Leclerc, sur cette attaque au couteau dans le Gard qui a rapidement pris une tonalité politique, hein, certaines voix au sein de la communauté musulmane regrettant une sorte de deux poids, deux mesures dans l'émotion, dans la réaction politique aussi. Bruno Retailleau s'est rendu ce week-end à la sous-préfecture d'Alès, mais le ministre de l'Intérieur a tardé à réagir, estime Mohamed Moussaoui, c'est le coprésident du Conseil français du culte musulman.
La famille d'Aboubakar et l'ensemble des musulmans de France attendaient des paroles et gestes forts face à cette haine qui les vise. Quel que soit le nom qu'on donne d'ailleurs à cette haine, les musulmans de France refusent évidemment de s'installer l'idée que les crimes dans notre pays puissent être traités différemment selon la religion de la victime ou la religion supposée de l'auteur du crime. C'est le sentiment qui traverse une grande majorité des musulmans de France. Ils ont le sentiment que la haine anti-musulmane n'est pas prise de la même façon, au sérieux, de la même façon que les autres haines. J'espère que les mots forts prononcés aujourd'hui par les pouvoirs publics aillent dans le sens de dissiper ce sentiment.
Mohamed Moussaoui, du Conseil français du culte musulman sur France Info, et la porte-parole du gouvernement répond à cette critique ce matin. Il n'y a aucun deux poids, deux mesures, assure Sophie Prima. Bruno Retailleau, dit-elle, est très déterminé à lutter contre toutes les formes de ségrégation et de violence. Et puis c'est une toute autre attaque au couteau dans un autre cadre et dans des circonstances bien différentes. À Nantes, les cours ont repris ce matin au sein du collège-lycée de Notre-Dame de Toutes-Aides. Après la mort d'une lycéenne jeudi, poignardée par un camarade, 3 autres élèves ont été blessés. Le suspect a été interné en hôpital psychiatrique. Ce drame met en lumière les enjeux de santé mentale, avait réagi Elisabeth Borne, alors que d'autres pointent du doigt la violence qui s'accentue au sein d'une partie de la jeunesse. Alors qu'en pensent les intéressés, Juliette Gloria a interrogé des lycéennes à Verdun et à Nancy.
Aaron n'a pas besoin de réfléchir très longtemps pour se souvenir de la dernière bagarre dans son lycée.
C'était du règlement de compte violent.
La semaine dernière, dans une salle de classe, devant un professeur.
Ça s'est poussé, ça s'est mis décroché, ça s'est plaqué par terre, ça a fait beaucoup. Bah, le professeur, il a laissé intervenir, mais on peut pas. Hein. Du coup, bah, c'est un élève de ma classe qui fait de la boxe, il est venu, il a intervenu.
Aaron craint les risques de dérapage.
À tout moment, hein, j'en connais même des gens qui ont des couteaux sur eux, cas où ça partirait en cacahuète.
Oui, comme ça. Oui, c'est fréquent, quoi.
Tina, sa petite amie, aussi.
Je sais qu'il y en a toujours un qui a un schlaz, quelque chose sur lui, pour se défendre, c'est pas des blagues, quoi.
La lycéenne est inquiète, d'autant plus que dès le collège, elle a assisté à des scènes violentes de détresse psychologique.
Des scarifications publiques, des choses comme ça, c'est arrivé très fréquemment, quoi. Donc oui, quand on se dit, la personne est capable de se faire du mal devant tout le monde, elle peut aussi faire du mal à quelqu'un d'autre devant tout le monde, elle en a rien à faire.
Elle regrette que le mal-être des plus jeunes ne soit pas forcément pris au sérieux.
On dit oui, crise d'adolescence, etc. Mais je pense qu'il faut les supporter un peu plus et vraiment essayer de comprendre, mais c'est compliqué avec les personnes en dépression, c'est que parfois ils savent même pas pourquoi ils sont dans cet état. Donc.
Tina a elle-même vécu une dépression au collège, elle s'en est sortie grâce à son entourage. Aujourd'hui, elle milite pour que la santé mentale soit davantage abordée en cours.
Reportage ici, Sud-Lorraine, ex-France Bleu. Des braqueurs, sexagénaires, une star de la télé-réalité, des bijoux volé pour un montant de 9 millions d'euros. Voilà les ingrédients du cas spectaculaire qui va être examiné à partir de cet après-midi à la cour d'assises de Paris. 10 personnes sont jugées pour le braquage de Kim Kardashian dans son hôtel parisien. C'était en 2016. La star viendra elle-même témoigner la semaine prochaine et les médias du monde entier devraient couvrir ce procès.
France Inter, le 13-14. Céline Asselot.
Alors ce n'est pas encore Habemus Papa, mais on pourrait déjà dire Habemus Dies. Le jour du conclave a été décidé. Ce sera le 7 mai prochain. C'est en tout cas ce que dit aujourd'hui l'ANSA, la principale agence de presse italienne. Bonjour Maxence Lambrecq. Maxence Lambrecq, en direct de Rome. que l'on va sans doute retrouver dans quelques minutes et qui n'est pas avec nous. Maxence Lambrecq, vous qui êtes sur place, vous nous parlez de cette congrégation générale qui était organisée ce matin. Les cardinaux, avant le conclave, se réunissent dans cette sorte d'assemblée générale à huis clos. Alors chacun y va de son avis sur l'avenir de l'Église. La presse à l'affût du moindre signal, on l'imagine. Et Maxence, l'arrivée des cardinaux ressemble un petit peu à un défilé politique.
La meute des journalistes est prête à bondir dès qu'elle voit sur le trottoir d'en face une soutane noire avec un ruban rouge. Marchez, marchez, ne jamais s'arrêter. L'un d'eux débarque ainsi dans le carré presse. Éminence, ce n'est pas par là. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Je ne sais pas. Ce cardinal l'air un peu perdu. Un autre passe incognito car il a gardé sa soutane dans son sac plastique. Pas la moindre trace du cardinal Barbarin. L'un des papabilés, Pierre Battista Pizzaballa, garde lui le visage fermé. Son collègue d'Alger sort le joker magique.
On a juste à découvrir celui que le Seigneur a choisi.
Conservateur ou progressiste, demande-t-on au cardinal Chavez. L'orientation, c'est... Il lève le doigt avec le sourire, conscient que non, le ciel ne fera pas tout. Un ami de François, lui, est en campagne, l'Argentin Angel Rossi.
Nous prions pour une figure qui a le courage de continuer avec sa personnalité, qui n'a pas besoin d'être celle de François, mais qui ne doit pas non plus perdre le chemin qu'a commencé François.
La question de l'héritage au cœur de ces réunions, certains parient sur un long conclave.
Parce que, pour l'instant, on ne se connaît pas.
Même les vaticanistes découvrent encore des visages, 73 pays représentés du jamais vu, et ce n'est pas ici qu'on y verra plus clair, ce sont bien des ministres de l'Église.
Maxence Lambrecq, envoyé spécial de France Info à Rome. Et à l'instant, le Vatican confirme donc la date du 7 mai pour le début du conclave destiné à élire le successeur du pape François. Et revenons maintenant sur cette image qui reste associée aux funérailles samedi du pape défunt. C'est ce tête-à-tête en plein cœur de la basilique Saint-Pierre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Cela va-t-il permettre d'avancer vers une paix en Ukraine? En tout cas, la Maison-Blanche se montre aujourd'hui optimiste et prédit une semaine cruciale pour les négociations. Donald Trump assure que son homologue ukrainien est prêt à abandonner la Crimée, alors qu'il a toujours assuré le contraire. Alors c'est peut-être pour remettre un coup de pression dans ces discussions que Vladimir Poutine vient de remercier, c'est son terme, Kim Jong-un, pour son engagement militaire à ses côtés. On va en parler avec vous, Éric Biégalin et Sylvain Tronchet. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Céline.
Bonjour.
Sylvain, vous êtes en Russie, Moscou et Pyongyang d'ailleurs, hein, ont pourtant longtemps nié la présence de soldats nord-coréens dans les rangs russes.
Oui, mais c'est la fin du déni, effectivement, à Moscou et à Pyongyang. Les militaires nord-coréens apparaissent même au grand jour hein, sur les médias russes aujourd'hui, qui les montrent à l'entraînement lors de leur arrivée dans la région de Koursk ou partant en opération en chantant et dans un communiqué très officiel ce matin. Donc, le Kremlin souligne le sens de la justice de ces soldats, remercie le camarade Kim Jong-un pour son aide en totale conformité avec le droit international, affirme Moscou. Il est assez symbolique, effectivement, que cette reconnaissance arrive au moment où les États-Unis pressent la Russie d'accepter d'ouvrir des négociations avec l'Ukraine. Et sur ce point, là, Moscou semble nettement moins enthousiaste ce matin. Interrogé, le porte-parole du Kremlin a répondu qu'il fallait que Kiev fasse le premier pas. Et s'il a dit une nouvelle fois que Moscou était ouvert au dialogue pour ménager Donald Trump, Dmitri Peskov s'est bien gardé de fixer une échéance. Et même dans une interview à un journal brésilien publié ce matin, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a posé toute une série d'exigences maximalistes pour entrer en négociation, qui ne font absolument pas partie, a priori, des propositions américaines.
Alors Éric Biégalin, je me tourne vers vous. Le Kremlin assure que les soldats nord-coréens l'ont aidé à libérer, c'est le terme, la région de Koursk, alors que les Ukrainiens assurent que les combats se poursuivent. On voit la guerre de communication. Qu'en est-il dans les faits?
Alors, difficile évidemment de cartographier précisément les avancées des uns, les reculades des autres. Ce qu'il y a de certain, c'est que les combats se poursuivent dans la région administrative russe de Koursk. L'un des généraux russes, commandant le front, certifié même hier à Vladimir Poutine, que des positions ukrainiennes étaient toujours tenues dans l'oblast de Koursk par l'armée ukrainienne, promettant qu'elles seraient réduites prochainement. Alors, si la totalité de la région de Koursk n'a pas été reprise par les Russes, ce n'est probablement plus qu'une question de jours, tant le territoire tenu par les Ukrainiens s'est réduit depuis l'offensive lancée par l'armée russe début mars. Mais il faut bien voir que cette offensive est la cinquième ou sixième du genre depuis que les Ukrainiens, eux, dans une offensive éclair, ont pris en Russie autour de 1500 km², c'était en août dernier. Les Nord-Coréens ont été très durement mis à contribution dans ces assauts successifs contre l'armée ukrainienne. Sur les 10 à 12 000 soldats qu'ils avaient envoyés en Russie pour reprendre Koursk, entre 3 et 4 000 hommes auraient été mis hors de combat, tués ou blessés, c'est-à-dire entre un quart et un tiers du contingent déployé. Et il s'agissait là d'unités d'élite bien entraînées et bien armées. La reprise de Koursk aura de toute façon coûté très très cher à l'armée nord-coréenne.
Éric Biegala, spécialiste défense à la rédaction internationale. Sylvain Tronchet, correspondant de France Inter à Moscou. Merci à tous les deux. Un autre conflit maintenant devant la justice internationale. La CIJ se penche sur la guerre à Gaza et sur les obligations humanitaires d'Israël envers les Palestiniens, alors que l'armée israélienne est accusée de violer le droit international en bloquant l'entrée de l'aide humanitaire. Bonjour Sébastien Legénie.
Bonjour.
5 jours d'audience qui ont commencé ce matin devant la Cour internationale de justice. Et c'est une pression supplémentaire, pression judiciaire diplomatique sur Israël.
Oui, Benjamin Netanyahou est déjà sous le coup d'un mandat d'arrêt pour crime contre l'humanité. Et là, c'est l'État hébreu en tant que tel qui est jugé par la Cour internationale de justice, poursuivi par des dizaines d'États pour le blocage total de l'aide humanitaire à Gaza depuis 50 jours. C'est le représentant de l'État palestinien auprès de l'ONU, Amar Hijazi, qui a commencé à déposer devant les 15 juges ce matin.
Starvation is here.
La famine est là, dit-il. L'aide humanitaire est utilisée comme une arme de guerre. Toutes les boulangeries ont été forcées de fermer leurs portes. 9 Palestiniens sur 10 n'ont pas accès à l'eau potable. Les entrepôts de stockage alimentaire de l'ONU sont vides. C'est la pire situation humanitaire que Gaza ait connue depuis un an et demi. Et pour les juristes internationaux, le fait d'affamer la population civile délibérément est considéré par le droit international comme un crime de guerre. Ce n'est pas la première démarche judiciaire entamée par les Palestiniens et leur soutien. En mars 2024, déjà, la Cour avait réclamé de nouvelles mesures à Israël face à la famine qui s'installe dans Gaza. Un avis jamais suivi des faits, car les avis de la CIJ ne sont que consultatifs, pas juridiques. Juridiquement contraignant, une pression judiciaire et diplomatique qui sur le terrain n'a donc aucune conséquence. Israël, de son côté, n'y voit, je cite, qu'une persécution systématique de l'État hébreu.
Sébastien Legénie, rédaction internationale. Comment la Chine harcèle, intimide, réprime ses opposants partout dans le monde? C'est le sujet de la nouvelle enquête internationale à laquelle Radio France participe avec le consortium international des journalistes d'investigation. Bonjour Maxime Tellier.
Bonjour.
Ce matin, on révélait que de nombreux dissidents exilés, y compris ici en France, était la cible de piratage de mails, de pression. Et dans le 13-14, on va s'intéresser avec vous à un autre aspect de l'enquête. Ça se passe aux Nations Unies, au siège du Conseil des droits de l'homme à Genève. Près de la moitié des ONG chinoises accréditées sont de fausses ONG, dit votre enquête, dépendantes de Pékin, dont elles relaient le discours. Et vous l'avez constaté, Maxime, lors d'une conférence organisée par l'une de ces associations à Genève le mois dernier.
Oui, les débats portaient ce jour-là sur la façon d'améliorer les droits des femmes en Chine. Mais les participants n'ont trouvé aucune critique à formuler, dressant un tableau très positif de ce que fait la Chine. Nous avons donc demandé à la présidente de cette association si elle était l'une de ces fausses ONG.
Non, ça c'est un stéréotype qui est raconté ici par certains à l'ONU. Car vous avez vu notre événement ? On a parlé des droits des femmes, de développement durable. On se concentre vraiment sur ces sujets de développement durable.
Voilà, elle se dit indépendante, mais dans ses statuts, son ONG adhère à la direction du Parti communiste chinois. C'est écrit noir sur blanc et c'est le cas de 46 ONG sur un peu plus de 100 à l'ONU qui sont chinoises, donc révèle notre enquête. Et c'est un vrai problème pour Raphaël Viana, porte-parole d'une association humanitaire, l'ISHR, qui dénonce l'agenda caché de ces fausses ONG.
C'est une organisation qui cherche à donner la vraie voix de la société civile chinoise, évidemment en faisant fi de tout espace pour des organisations tibétaines, ouïghours, chinoises ou hongkongaises en exil. Ces organisations, quand elles viennent à l'ONU, c'est très majoritairement, sinon uniquement, pour avancer la voix du gouvernement.
Et conséquence, beaucoup de dissidents se disent surveillés et intimidés et n'osent plus venir à l'ONU. Les Nations Unies précisent qu'il serait trop difficile de distinguer les vraies des fausses ONG. On le rappelle, la Chine est le deuxième financeur de l'ONU.
Merci Maxime Tellier. Cellule Investigation, China Targets, les cibles de Pékin. C'est donc l'enquête à lire en intégralité sur notre site internet franceinter.fr. trouvé 50 milliards d'euros pour tenter de résorber un peu le déficit public. Voilà la mission que s'est donnée le gouvernement il y a quelques jours. Amélie de Montchalin disait vouloir examiner l'efficacité des 467 niches fiscales. Et aujourd'hui, c'est du côté des agences de l'État que la ministre des Comptes publics cherche à faire des économies. On a un devoir de supprimer ce qui est inutile ou ce qui coûte trop cher, disait-elle hier sur CNews. Un tiers des agences et des opérateurs de l'État devraient être supprimés ou fusionnés d'ici la fin de l'année. On vous retrouve Luc Chemelin. Ça concerne 180 000 agents qui travaillent dans ces structures et qui sont désormais dans le flou.
Ah oui, déjà, car on ne sait pas pour l'instant quelles agences seraient concernées. Seule certitude, la proposition ne vise pas celles en lien avec les universités. Mais pour le reste, point d'interrogation. En début d'année, plusieurs d'entre elles étaient dans le collimateur du gouvernement et de la droite. L'agence bio, l'ADEME, celle pour la transition écologique, l'Office français de la biodiversité ou encore la Commission nationale du débat public. Ensuite, le flou demeure sur les conséquences concrètes pour les 180 000 agents. La ministre des Comptes publics tente de rassurer et l'assure, il existe des solutions pour éviter une casse sociale. Elle fait d'ailleurs des propositions, par exemple le non-remplacement des agents qui partent à la retraite. Vous avez des gens que vous pouvez mettre ensemble, dit également Amélie de Montchalin. Pas de quoi calmer les inquiétudes des syndicats. Mylène Jacquot est secrétaire générale de la CFDT Fonction publique.
Si on fusionne des agences, certains vont voir leur lieu de travail modifié. Certains vont voir leurs conditions de rémunération probablement impactées. Certains vont voir leur organisation, leurs conditions de travail impactées également. Ce n'est pas forcément la fusion en elle-même qui est grave. C'est l'absence d'accompagnement, l'absence de dialogue social.
Ne saisissons pas la contrainte budgétaire pour faire trop vite tout et n'importe quoi, ajoute Mylène Jacquot, qui réclame une réunion avec le ministre de la Fonction publique et celle des comptes publics. Amélie de Montchalin sera d'ailleurs auditionnée mi-mai par le Sénat et promet des annonces.
Merci Luc Chemelin, service économie de France Inter. Alors est-ce que c'est une bonne piste d'économie? On posera donc la question d'ici une dizaine de minutes à notre invité François Eckhall, spécialiste des finances publiques. Le budget, évidemment, on le sait, est au cœur des préoccupations du gouvernement. C'est d'ailleurs sur cet écueil qu'avait chuté Michel Barnier au mois de décembre dernier. Son successeur, François Bayrou, a bien l'intention, lui, d'échapper à la censure des députés. Et il veille donc à soigner ses relations avec les différents groupes parlementaires, d'où ce débat organisé cet après-midi à l'Assemblée nationale sur l'insistance d'une partie des députés, notamment du Rassemblement national, et qui porte sur l'avenir énergétique de la France. On va en parler avec vous, Cécile Bidot, bonjour.
Bonjour.
Les députés vont débattre sans vote de la prochaine PPE pour programmation pluriannuelle de l'énergie. Alors c'est un terme un petit peu technique, mais c'est un texte qui a des conséquences très nombreuses, très concrètes, qui va décider comment la France va produire son énergie dans les 10 prochaines années avec l'horizon 2050, la neutralité carbone. Dites-nous, Cécile, que prévoit donc cette PPE?
D'abord le cadre, son objectif c'est de réduire notre dépendance aux énergies fossiles, pétrole et gaz importés de l'étranger et qui représentent aujourd'hui les deux tiers de notre consommation. Alors maintenant, comment on y arrive? L'électricité bas carbone, nucléaire et renouvelable passerait de 30 à 40% de la production en 10 ans, avec une production solaire multipliée par 4 et un déploiement ambitieux de l'éolien en mer qui était jusqu'ici quasiment inexistant. L'éolien terrestre, lui, doublerait son implantation. Contrairement à la feuille de route précédente qui préconisait un repli du nucléaire, le nouveau texte mise sur la relance de l'atome en améliorant les capacités du parc existant qui reviendrait à son niveau d'il y a 10 ans, en attendant la mise en service des nouveaux réacteurs EPR.
Alors on a beaucoup dit, Cécile, que cette PPE avait cristallisé l'opposition entre les pros et les anti-nucléaires. Qu'en est-il exactement?
Sur le plan politique, c'est clairement le cas, même si le gouvernement espère ne pas tomber dans la caricature. À gauche, on est pour les renouvelables, à droite, pour le nucléaire. Le débat cet après-midi devrait nous éclairer sur ce clivage. Mais si l'on écoute les acteurs du secteur, tous poussent pour l'adoption de cette PPE. Jeudi dernier, une vingtaine de fédérations ont écrit une lettre ouverte aux parlementaires pour défendre le texte. Parmi les signataires, on trouve aussi bien le syndicat des énergies renouvelables que la Société française d'énergie nucléaire. La question qui risque d'animer les débats, ce sera celle d'une éventuelle surproduction. Cette feuille de route ne voit-elle pas trop grand? Selon un spécialiste du secteur, cette PPE correspond aux besoins si et seulement si la consommation repart à la hausse. Cela passe par l'électrification des usages, du chauffage à la voiture.
Merci pour toutes ces précisions, Cécile Bidot. Et puis, autre sujet dont les partis partis politiques vont être amenés à discuter aujourd'hui, toujours sous l'impulsion du gouvernement. Faut-il introduire de la proportionnelle aux élections législatives? Si oui, sous quelle forme et dans quelle proportion? François Bayrou, défenseur historique de ce mode de scrutin, engage une consultation sur ce sujet qui divise les formations politiques. 150 armes pour 1000 habitants, voilà la moyenne nationale en France. 350 pour 1000 habitants, voilà le chiffre en Corse, qui détient aussi un autre record, celui du nombre d'homicides rapportés au nombre d'habitants. Alors pour tenter d'enrayer justement cette violence, de mettre fin à la culture de la violence, les préfectures de Corse lancent aujourd'hui une opération « Déposons les armes ». Les habitants invités à venir les donner aux autorités avec la garantie qu'il n'y aura pas de poursuite. Et c'est une bonne initiative, assure Léo Battesti, cofondateur d'un collectif de lutte contre la mafia, même s'il n'a pas d'illusion, dit-il, sur le succès de cette opération.
Au niveau de la symbolique, ça va dans le bon sens, hein, puisqu'il faut absolument mener une lutte contre la culture de l'arme en Corse, et il faut absolument changer de braquet en la matière, dans la sensibilisation en particulier au niveau des jeunes. Beaucoup de jeunes, pas tous, fort heureusement, mais beaucoup, ont un sentiment de puissance en sortant calibré. Et ça, c'est dangereux, et on le voit, il y a eu beaucoup de cas en Corse où le fait d'être armé a provoqué des meurtres. Hein. Par contre, bon, au niveau de l'efficacité, je pense que ce sera plus que modéré, hein. Il y a déjà eu l'exemple il y a quelques années, et je crois que les principaux concernés, c'est-à-dire des gens qui veulent utiliser les armes pour dominer, je ne crois pas qu'ils les restituent. Hein. Mais en même temps, on ne peut pas blâmer. Hein. C'est bien, il faut bien faire quelque chose, mais on est assez modéré par rapport aux résultats. Ça ne va pas être le flux continu de personnes qui vont déposer les armes. Non, ça n'existera certainement pas.
Léo Battesti, cofondateur d'un collectif de lutte contre la mafia, au micro France Inter de Sarah Mansoura. Cabinet fermé, consultations annulées. Les médecins sont appelés par plusieurs syndicats à faire grève aujourd'hui pour défendre leur liberté d'installation, menacée selon eux par une proposition de loi qui prévoit plus de régulation pour mettre fin aux déserts médicaux. Le gouvernement, lui, veut demander aux médecins d'aller consulter 2 jours par mois dans une zone sous-dotée. Une manifestation de médecins mécontents est prévue demain. On en vient à Meta, qui voit grand pour son marché européen. Le géant américain, propriétaire de Facebook et d'Instagram, a décidé d'améliorer ses lunettes connectées. C'est vous qui allez nous en parler, Camille Marigot, bonjour.
Bonjour.
Alors ce sont des lunettes de marque Ray-Ban qui auront désormais une nouvelle fonctionnalité qui n'était jusqu'à présent débloquée qu'aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Elles vont permettre, ces lunettes, de traduire simultanément ce que leurs propriétaires entendent.
Une fois sur votre nez, ces lunettes, que nous n'avons pas à tester à France Inter, hein, je le précise, sont capables de traduire en direct ce que dit la personne en face, en anglais, en français, en espagnol ou en italien. Il suffit de dire « et mais ». Meta lance la traduction en direct et la monture se transforme en interprète. Possible aussi de poser des questions à ces lunettes. Quelle est la fleur, le monument, le plat que j'ai sous les yeux? Ces Ray-Ban connectés ont déjà été écoulés à 2 millions d'exemplaires en Amérique du Nord selon le fabricant. Son ambition, en produire 10 millions par an dès 2026 pour dominer le marché face aux concurrents chinois ou aux Google Glass vendus entre 350 et 570 euros. Le gros défi est de convaincre l'utilisateur européen. L'intelligence artificielle de Meta n'est pas aussi réputée que celle de ChatGPT, par exemple. Pour rattraper le retard, il faut donc des données, toujours plus de données. C'est l'objectif principal de ces lunettes surdouées. En aspirer le maximum pour nourrir l'intelligence artificielle de Meta, reste à savoir si les utilisateurs seront prêts à partager ces informations. D'ailleurs, l'arrivée de ces nouvelles fonctions en Europe a pris plus de temps que prévu en raison de règles plus strictes sur la protection des données personnelles.
Merci Camille Marigot pour cette innovation technologique. Un mot pour vous parler de la Russie, avec cette annonce à l'instant de Vladimir Poutine qui annonce une trêve de 3 jours, du 8 au 10 mai, dit le dirigeant russe. La Russie qui répliquera en cas de violation par l'Ukraine de cette trêve, prévient-il. Pas plus de détails pour l'instant, mais on y reviendra bien sûr sur France Inter. 13h28, restez avec nous à suivre dans la prochaine demi-heure. Élodie Calac de Météo France sera avec nous pour nous parler des prévisions quasi estivales de ce début de semaine. On va ensuite accueillir notre invité François Eckhall, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes. C'est l'un des grands spécialistes des finances publiques. Comment en est-on arrivé là, ce déficit record? Comment redresser la barre? Vous verrez qu'il porte un regard assez sévère, hein, sur les gouvernements successifs. massif. Et il attend bien sûr vos questions 01 45 24 7000 et l'appli France Inter. On découvrira ensuite le premier épisode de notre feuilleton de la semaine. Une semaine dans leur vie nous emmène dans une classe de Haute-Vienne où les élèves ont travaillé toute l'année pour participer au concours de l'école des Odyssées lancé par France Inter. Sonia Prince est allée leur rendre visite. Premier épisode à suivre. 13h50, c'est la France. Et c'est avec vous, Mathieu Avanzi, bonjour.
Bonjour Céline.
Vous êtes notre linguiste avec nous tous les lundis dans le 13-14 de France Inter. Aujourd'hui, on se prépare au 1er mai.
Allez au mail, débauchés mascagnés. Ce jeudi 1er mai, on célèbre la fête du travail. Mais avant de chanter, on lâche rien. Je vous propose de nous arrêter sur un autre aspect, les mots du travail selon nos régions.
Et bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Céline.
C'est une chanson qui est à votre micro aujourd'hui.
Eh bien, nous irons à la rencontre de Christian Signol, romancier à succès qu'on connaît notamment pour sa trilogie La Rivière Espérance. Et c'est justement de rivière que parle la chanson qu'il a souhaité que l'on écoute. La rivière de notre enfance par Garou et Michel Sardou.
Que de rivière. Merci à tous les deux, je vous dis à tout à l'heure.
On en parle.
De nombreux modèles Volkswagen bénéficient déjà de la nouvelle technologie hybride rechargeable. On en parle avec Alexandre Bonhomme, responsable produit Volkswagen France. Bonjour.
Bonjour.
Alors Alexandre, quel progrès apporte cette motorisation hybride ?
Eh bien concrètement, avec le mode 100% électrique de la nouvelle Golf, on peut parcourir plus de 140 km.
Bien.
Et en plus, en autonomie cumulée, c'est-à-dire avec le moteur thermique, vous pourrez rouler l'esprit tranquille au-delà de 940 km.
Donc maintenant, inutile de choisir entre le thermique ou l'électrique, c'est ça ?
Exactement. Et puis on peut dire que la nouvelle technologie Volkswagen e-hybride offre le meilleur des deux mondes.
Ah oui.
Une conduite 100% électrique au quotidien, combinée au meilleur du thermique pour les plus grands trajets.
Alors les premiers retours ?
Ils sont super positifs, surtout que sur une bande rapide, il faut moins de 30 minutes pour charger la batterie de 10 à 80%.
Alors ça c'est super. Merci Alexandre.
On en parle. Donnez WLTP. En savoir plus sur Volkswagen.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Ensuite, la météo.
La météo avec Préfond, l'expertise retraite, épargne et prévoyance de la fonction publique depuis plus de 60 ans. Pour une retraite solide, même par temps incertain. Préfond.fr.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Alors c'est une journée douce, souvent ensoleillée, mais aussi instable au sud. Hein.
Exactement. Alors on a du soleil qui domine sur les régions au nord de la Loire, près de l'océan, du Pays Basque au Languedoc-Roussillon ou alors vers la Côte d'Azur. Et puis ailleurs, ça devient en effet plus instable. Alors des nuages vont bourgeonner au fil de l'après-midi, du Poitou et du Limousin vers le nord de Midi-Pyrénées, le Massif central, le Lyonnais, la Provence, les Alpes et le Jura, avec des averses possibles, parfois orageuses. Un peu de grésil n'est pas exclu non plus. Quelques averses orageuses aussi sur la Corse, sur les Pyrénées, avec des températures qui vont monter, bien douces pour la saison. On attend 19 à 25 degrés, les 19 vers les côtes de la Manche, 21 en Corse, 23 degrés à Reims, Mulhouse, Bourges, Nantes, 23 aussi à Agen, Grenoble et Nîmes et 25 degrés attendus à Paris. Pour demain, du soleil, toujours un risque d'averses et d'orages sur les Pyrénées, de la vallée du Rhône vers les Alpes et le Jura, des températures encore en hausse et ça continuera pour les jours suivants. On attend vraiment un petit air d'été cette semaine.
Merci Elodie Calac de Météo France.
France Inter. 13-14, Céline Asselot.
Et bonjour François Eckel.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui dans le 13-14 de France Inter, grand spécialiste des finances publiques, de l'économie en général, hein, auquel vous avez consacré votre carrière, passé par Bercy, par la Cour des comptes, vous racontez votre parcours et vos préconisations dans un ouvrage qui vient de paraître, Mes comptes publics aux éditions Edil Jacob. Mes comptes, je le précise en un seul mot, ce qui donne déjà un petit peu le ton de ce que vous racontez dans cet ouvrage. Alors vous dites dans ce livre, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans que j'écris la même chose, que je préconise la même chose et que parfois les décisions ont été longues à prendre. Alors quand vous entendez aujourd'hui un Premier ministre qui parle du piège de la dette, que vous voyez que la question des finances publiques, on en parlait au cours du journal, de la réduction du déficit, s'installe au cœur du débat, est-ce que vous vous dites « enfin » ?
Malheureusement, je me suis souvent dit « enfin oui. » et je n'ai pas vu la fin de cette histoire. Mmh. Parce que ça fait quand même très longtemps que la plupart des gouvernements affichent une réduction du déficit public, de la dette publique. Ça a commencé quand j'étais au ministère des Finances, dans les années 90, quand il s'agissait de préparer l'entrée dans l'euro. L'objectif à l'époque, c'était de revenir à un déficit public de 3,0% du PIB en 97. Ça a été extrêmement difficile. facile. On a fini par y arriver, mais après, on s'est quand même un peu endormi sur nos lauriers. Et depuis cette époque, tous les gouvernements disent ça, mais la dette continue à augmenter.
Mais est-ce qu'on se réveille là ? Est-ce que vous avez le sentiment quand même qu'il y a une prise en compte ? En tout cas, on n'en a jamais autant parlé du budget des finances publiques.
On a parlé aussi à certaines périodes avant. Mais enfin, là, la situation est particulièrement critique parce que la dette n'a fait qu'augmenter ces dernières années. On vient, la Eurostat vient de publier les résultats pour 2024. On a le déficit public le plus élevé de la zone euro. Donc, et on est les troisièmes pour la dette publique dans l'Union européenne. Donc je pense que le Premier ministre, le ministre de l'économie en sont parfaitement conscients et qu'ils ont la volonté, en effet, de rétablir la situation. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun consensus en France entre les partis politiques et notamment à l'Assemblée nationale sur les mesures nécessaires pour y arriver. Donc je ne vois pas comment on va voter à l'Assemblée pour l'année prochaine. On parle de 40 milliards d'euros. Je ne vois pas comment on va arriver à voter 40 milliards d'euros d'économie.
Alors je suis sûr que vous avez des idées. En tout cas, vous avez des préconisations sur ces solutions. On va en parler. Un dernier mot sur le constat, peut-être, pour bien comprendre de quoi on parle et quelques chiffres. Voilà, c'est un peu austère, mais au moins ça permet de poser les choses. Le déficit public s'est creusé à 5,8% du PIB en 2024. On rappelle que le plafond autorisé par l'Union européenne, c'est 3%. Vous le disiez, c'est le plus élevé de la zone euro. La dette publique, c'est 113% du PIB en 2024. Et le coût de la dette, c'est 60 milliards en 2025. Et ça pourrait atteindre 100 milliards en 2029. C'est en tout cas ce que dit François Bayrou, qui dit qu'il faut faire quelque chose. Et la France dit toujours, oui, on va rentrer dans les clous européens d'ici quelques années, 2029, c'est l'objectif. Est-ce que c'est faisable ?
Faisable, oui, sur le papier. On peut trouver les... Il faut faire... L'effort est colossal. Hein.
Ça paraît beaucoup.
Il faut faire un effort de... Alors, le mode de calcul diffère, mais c'est entre 100 et 150 milliards d'euros. C'est énorme. On ne l'a jamais fait. D'autres pays l'ont fait. La Suède, dans les années 90, mais elle l'a fait sous la contrainte, parce qu'elle a connu une crise financière très importante au début des années 90. Donc, c'est le genre d'effort, malheureusement, qu'on ne fait souvent, même dans les autres pays, que contraint et forcé.
Et est-ce que ça ne serait pas trop brutal, même si on y parle? Parvenez. Pour les contribuables, alors, pour les foyers, pour les ménages.
Ça sera forcément brutal. Dès que vous faites des économies sur les dépenses publiques ou que vous augmentez des impôts et cotisations, ça touche des ménages ou des entreprises, hein, d'ailleurs. Donc c'est forcément brutal. Et quand on réduit le déficit public, quelle que soit la méthode, il y a toujours des effets négatifs sur l'activité à court terme. Donc ça veut dire à court terme, plus de chômage en particulier et moins de pouvoir d'achat. Mais... ce sont des effets qui s'estompent avec le temps, qui s'atténuent et au bout d'un certain temps, de quelques années, on peut espérer que ça aille beaucoup mieux. C'est d'ailleurs ce que nous montre l'exemple des pays méditerranéens comme l'Espagne et le Portugal, qui ont subi cette cure d'austérité, si on veut dire, sous la contrainte. Eux aussi, au début des années 2010, ça va beaucoup mieux aujourd'hui en Espagne et au Portugal.
Alors il y a des mesures qui sont annoncées. On en parlait tout à l'heure dans le journal avec Luc Chemelin. La ministre des Comptes Publics, Amélie de Montchalin, annonce qu'un tiers des agences et des opérateurs de l'État seront fusionnés ou supprimés d'ici la fin de l'année. Est-ce que ça vous paraît une bonne piste ? Est-ce que ça va dans le bon sens, en tout cas ?
Alors, ça va dans le bon sens, mais il ne faut pas se faire trop d'illusions sur les économies qu'on va pouvoir réussir. D'abord, le modèle des agences, il n'est pas absurde. Avoir des agences qui mettent en œuvre des politiques définies par les ministères, c'est ce qu'on fait dans beaucoup de pays, notamment les pays scandinaves, justement, qui ont très bien réussi. Donc, ce n'est pas absurde en soi. Après, on peut examiner en effet ces agences, il y en a probablement un peu trop. Certaines sont trop petites pour que ce soit justifié qu'elles aient une autonomie. Donc il y a des économies à faire. Je pense qu'on peut arriver à faire 2, 3, 4 milliards peut-être d'économies en restructurant, en regroupant, en supprimant. Mais c'est très loin, même ne serait-ce que des 40 milliards qu'on annonce pour l'année prochaine.
On va aller au standard de France Inter, on nous attend Michel. Bonjour Michel, bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Nice, je vous laisse poser votre question à François Hical.
Oui, écoutez, c'est simple, on constate de nouveau qu'on parle beaucoup des dépenses, qu'on est essentiellement focalisé sur les dépenses et peu sur les recettes. Alors on sait bien qu'il y a beaucoup de fuites dans les recettes de l'État, des fuites légales comme les exonérations de charges ou l'existence de paradis fiscaux, on l'a vu dernièrement avec l'affaire des cum-cum, la fraude de tous les jours, sans compter également le manque de moyens de l'administration, le fait que l'administration des finances publiques a perdu 30 000 emplois, je crois, en en quelques années. Donc je pense que ça pourrait aider de faire aussi un effort sur les recettes sans augmenter les impôts, mais en faisant rentrer ce qui devrait normalement rentrer dans les caisses de l'État ou de la Sécu.
Merci Michel pour votre intervention. Que pensez-vous de cette suggestion, notamment rendre plus efficiente effectivement la lutte contre la fraude fiscale ?
Alors la question des recettes est tout à fait légitime. Je pense que les marges de hausse des prélèvements obligatoires en France, c'est-à-dire des impôts et des cotisations sociales, sont assez limitées, parce que même après toutes les baisses d'impôts de la période Macron depuis 2017, on est quand même les premiers ou sur le podium de l'OCDE pour la plupart des impôts et cotisations sociales. Mais l'effort est tellement important à faire que je pense qu'on n'évitera pas, en effet, une hausse des recettes. On ne va pas pouvoir tout faire par des économies sur les dépenses. Augmenter les recettes, ça veut dire augmenter les taux ou l'assiette, ça veut dire aussi en effet lutter contre la fraude fiscale. Il faut lutter contre la fraude fiscale, c'est évident, mais je rappelle que au cours des 10-15 dernières années, on a quand même donné, en fait, les effectifs de du ministère des Finances ont baissé, c'est vrai, mais les moyens juridiques, les moyens techniques, la coopération internationale en matière de lutte contre la fraude ont énormément progressé, et tout ça, ça a permis de faire que les recettes tirées de la lutte contre la fraude fiscale sont passées à peu près de 8 milliards par an à 11 milliards par an. Donc je veux bien qu'on refasse le même effort dans les années qui viennent, mais on va regagner quoi ? 3 milliards ? 3 milliards sur... Ben, on parle à nouveau, on parle de 40 milliards pour l'année prochaine.
Alors si je vous comprends bien, réduire les impôts, c'est obligatoire, même s'il y a des secousses, même s'il y a des conséquences, et il faudra augmenter les impôts, si je vous entends.
On ne l'évitera pas.
C'est un cocktail détonnant, impopulaire évidemment, et puis qui peut avoir aussi des conséquences sociales d'ampleur.
Bien sûr, ça aura des conséquences sociales, mais il y a un prix à payer. Tous les pays qui ont redressé leur finances publiques l'ont d'abord payé très cher.
Mais comment on fait pour protéger les plus fragiles face à ça ?
Alors on peut trouver, il y a des moyens de protéger les plus faciles. Hein. Il y a des minima sociaux, on n'est pas obligé de toucher aux minima sociaux. Hein. Et, il y a des prestations sociales qui profitent plus aux plus démunis. Donc on peut trouver des moyens de faire en sorte que les plus démunis ne soient pas touchés. Mais ça veut dire aussi que, puisqu'on parle beaucoup des classes moyennes, les classes moyennes, elles, seront touchées, oui.
Alors ne parlons pas que des classes moyennes, parlons aussi des ménages et des foyers les plus riches. Avec vous Bernard, bonjour.
Et oui,
bienvenue.
Bonjour.
Vous nous appelez de Lille.
Je me demandais pourquoi la Macronie s'entête-t-elle à ne pas vouloir rétablir ISF et pourquoi nos sénateurs et nos députés qui se sont récemment augmentés ne renoncent pas à cette augmentation en gage de leur solidarité, quoi.
L'ISF, l'impôt sur la fortune.
Alors,
François
Hécal. Je ne sais pas pourquoi la Macronie, je ne suis pas à leur place, ni leur porte-parole. Personnellement, je pense qu'en effet, il va falloir se résigner à augmenter des impôts sur les ménages, notamment les plus riches. On a un problème, en effet, il serait bien de redistribuer mieux les patrimoines. Mais je pense que le meilleur instrument pour redistribuer les patrimoines, ce sont les droits de succession. Parce que je préfère qu'on taxe le patrimoine hérité plutôt que le patrimoine acquis par l'épargne, par les risques pris en investissement avec un impôt comme l'ISF. Donc moi, je ne suis pas favorable au rétablissement de l'ISF sous une forme ou sous une autre. En revanche, je pense qu'on peut faire quelque chose sur les droits de succession, ce qui n'est pas du tout facile parce qu'en France, comme dans tous les autres pays, les droits de succession sont très impopulaires, même chez ceux qui n'auront jamais à en payer. C'est l'impôt sur la mort et il y a beaucoup de pays d'ailleurs qui les ont complètement supprimés. Donc ce que je dis est très impopulaire, mais je pense que... Mais économiquement, je pense que c'est plus justifié.
Alors, vous dites pas mal de choses impopulaires, si je puis me permettre, François Hécal.
Oui,
un mot sur les niches fiscales, parce que c'est aussi ce qui a été amené dans la discussion par Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes Publics, il y a quelques jours, qui dit vouloir passer en examen les 467 niches fiscales. Voilà, elle a fait le décompte, qui pèsent 85 milliards d'euros. Est-ce que là aussi, c'est une bonne idée, c'est une piste d'économie intéressante ?
Bien sûr, mais comme je le raconte dans mon livre, déjà il y a 15 ans, quand j'étais à la Cour des comptes, on entendait le même discours et je faisais des rapports où on disait qu'il fallait en effet essayer de réduire le nombre et le coût des dépenses fiscales. Donc oui, bien sûr. Maintenant, il faut avoir en tête que, comme disait un ancien président de la commission des finances de l'Assemblée, dans chaque niche, il y a un chien qui meurt. Mais derrière ça, il y a des gens qui sont concernés, à nouveau, c'est de l'argent qui va dans la poche de contribuables, ménages ou entreprises, et qui ont des justifications. Donc il faut arriver à pouvoir leur dire, ben non, ces justifications ne sont pas suffisamment bonnes et il faut les supprimer. Et c'est pas du tout évident. Maintenant, mais elle a raison, ça fait longtemps qu'on aurait dû le faire.
Alors, on va retourner au standard de France Inter pour accueillir Christophe. Bonjour Christophe.
Oui,
vous nous appelez de La Rochelle, bienvenue, je vous laisse poser votre question.
Oui, merci. Alors, c'est juste une suggestion. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de transformer les contrats de la plupart des fonctionnaires de ce pays qui consistent à avoir un emploi quasiment à vie, de transformer ce contrat en contrat à durée déterminée?
Merci Christophe pour votre question. En tant que fonctionnaire, François Eckel, qu'en pensez-vous ?
Je ne pense pas qu'il faille remettre en cause le statut de la fonction publique. De toute façon, alors c'est vrai qu'il y a des tas de pays où il n'y a pas de fonctionnaires, où les agents publics ils sont nombreux. Par exemple, les pays scandinaves, comme la Suède, il y a très peu de fonctionnaires. La plupart des agents sont sur des contrats de droit privé. Mais dans tous ces pays, il y a des conventions collectives en fait, qui remplacent le statut de la fonction publique et qui peuvent être aussi protectrices que le statut de la fonction publique et qui parfois de toute façon on ne va pas licencier dans les services de l'État pour raisons économiques. Je pense qu'il y a un problème qui est beaucoup plus important qu'il faudrait traiter et qu'on peut traiter avec le statut actuel, c'est un problème de mobilité. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a trop de fonctionnaires et il y en a d'autres où il n'y en a pas assez. Et donc il faudra arriver à les faire passer des endroits où il y en a trop vers les endroits où il n'y en a pas assez. Et ça c'est compliqué, mais ça peut se faire avec le statut actuel.
Mais c'est intéressant cette question de Christophe, parce qu'elle fait écho peut-être à ce qui se passe aux États-Unis avec cette politique très brutale de réduction des dépenses publiques, y compris avec des contrats, des milliers de contrats auxquels on a mis fin assez brutalement. Est-ce que vous regardez ça avec intérêt ou bien avec effroi ? Ce qui se passe
avec
de l'autre côté de l'Atlantique.
Alors il faut avoir en tête que aux États-Unis, c'est un peu, il y a une habitude, on appelle ça le spoil system, c'est-à-dire qu'au niveau de l'État fédéral, chaque fois qu'il y a un nouveau président, il y a plusieurs milliers d'emplois qui sont à sa discrétion, pour lesquels on licencie en effet, en général c'est quand même des cadres supérieurs, on les licencie et on les remplace. Là, ça a pris des proportions totalement inédites et parfaitement exagérées. Donc c'est pas du tout un exemple. Je répète, pour moi, il n'est pas nécessaire de changer, de supprimer le statut de la fonction publique. Il faut déjà arriver à faire en sorte qu'on puisse mettre les fonctionnaires là où on en a besoin.
Est-ce qu'il y a un pays, un exemple sur lequel vous voudriez vous appuyer ? Peut-être un espoir que ça marche quelque part ?
Moi, je cite souvent, mais je l'ai fait d'ailleurs tout à l'heure, l'exemple des pays scandinaves qui, dans les années 80, avaient des dépenses publiques qui étaient nettement supérieures à celles de la France, au pourcentage du produit intérieur brut, qui les ont réduits d'une dizaine de points de PIB. C'est comme si aujourd'hui on faisait des économies de l'ordre de 300 milliards d'euros en France. C'est énorme, bien plus que ce qui est envisagé aujourd'hui. Donc ils l'ont fait dans la durée, sur une dizaine d'années, avec un consensus politique et social à l'époque. Ils ont revu leur modèle social et ils s'en portent très très bien aujourd'hui.
C'est peut-être là que se situe l'espoir, en tout cas à vous entendre. Merci beaucoup François Eckel pour en savoir davantage sur ce parcours et ce récit d'une déception peut-être de ces dernières années. Mes comptes publics aux éditions Odile Jacob. Merci d'être passé nous voir dans le studio du 13-14. Et c'est l'heure de notre feuilleton, une semaine dans leur vie, ou plutôt, devrait-on dire, cette fois une année dans leur vie, puisque Sonia Princé a suivi toute l'année scolaire une classe qui participe au concours de l'école des Odyssées, concours lancé par France Inter. Il s'agit de fabriquer un podcast sur un personnage qui a marqué l'histoire, sur le modèle du célèbre podcast Les Odyssées. Les résultats seront proclamés le 13 mai prochain, et parmi les participants, il y a donc ces élèves de l'école Jean Rostand à Condat-sur-Vienne, près de Limoges. Sonia Princé les a rencontrés la première fois au Mat octobre avec leur enseignante.
Moi, je travaille énormément par projet parce que je trouve que c'est très intéressant. Déjà, c'est très fédérateur comme une classe. On fait des choses ensemble, on coopère, on a un but final ensemble. Et puis aussi, ça fait travailler différentes matières, que ce soit des mathématiques, du français, des sciences, de l'histoire. Mais en fait, ça permet aussi à certains enfants de faire des liens en fait, entre les matières, entre la vie de l'école et la vie en dehors de l'école. Et ça, parfois, ils ont du mal, c'est normal. Donc, les amener à être un peu curieux, les amener à réfléchir un peu différemment. Ce projet des Odyssées, moi, je n'avais pas du tout prévu de le faire. C'est en écoutant sur France Inter un matin au petit-déj qu'on proposait ça, je me suis dit, mais ça, c'est moi, déjà, moi, en tant qu'enseignante, je vais adorer faire ça. Et du coup, si moi, j'aime faire ça, je vais le transmettre aux enfants. Alors, ben, moi, je m'appelle Sozy Koberlé. Je suis enseignante depuis une vingtaine d'années. J'ai beaucoup enseigné, en fait, en classe de CM1, CM2. J'aime beaucoup les enfants de cet âge-là, parce que ce sont des enfants qui sont déjà assez autonomes dans la lecture, dans l'écriture, qui sont curieux, intéressés. Et quand on lance quelque chose, en général, ça prend. Ça y est, leur grand Besançon arrive bientôt. Vous vous souvenez qui c'est, leur grand Besançon ?
C'est celle qui fait la voix dans tous les Odyssées. C'est petite, elle a la coupe carrée. C'est la chef des Odyssées.
Ah ben voilà, ça commence.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel atelier de l'école des Odyssées. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver pour participer à ce grand concours, enfin ce grand jeu de création de podcast. On vous propose d'écrire le texte de votre Odyssée. C'est ce volet que nous allons aborder aujourd'hui.
Alors, je m'appelle Lisa. Les Odyssées, c'est une petite histoire. Ça consiste à créer un podcast sur quelqu'un de réel qui a vraiment existé, une personne.
Vous saviez ce que c'était un podcast ?
Je m'appelle Gabin, c'est quand t'enregistres ce que t'as fait et après tu le passes à la radio.
Surtout, n'oublie pas le plus important, vive la grande aventure ! Grand bisous à tous et à très bientôt ! Grand bisous !
Ok, alors du coup, on a eu beaucoup d'informations aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on, juste tant que c'est tout frais dans notre tête, là, qu'on se note un petit peu les choses importantes à écrire dans le récit. Qu'est-ce qu'il faudra mettre dans le texte ?
Tim ?
Une introduction.
Une introduction. C'est quel moment de l'histoire, l'introduction, Adrien ?
C'est comme s'il y avait quelqu'un, il entrait par effraction.
Tu as raison. L'introduction, ça peut vouloir dire ça, c'est-à-dire c'est s'introduire quelque part. C'est comment est-ce qu'on va introduire le personnage, comment on va le faire rentrer dans l'histoire.
Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans ce projet ?
Je m'appelle Adrien et je trouve ça intéressant parce que ça nous permet d'apprendre à s'exprimer. On participe beaucoup plus que des fois parce que c'est un travail d'équipe.
Ça permet de créer du lien et comme disait Adrien, de sortir un peu du scolaire et de l'exercice de grammaire, hein, ou de conjugaison, ou la dictée. Des fois, je sens bien que vous n'êtes pas hyper motivé par la dictée ou pas hyper motivé par l'exercice d'orthographe. Donc du coup, ça permet de travailler l'orthographe et de voir que ça a du sens.
Je m'appelle Hélène, j'aimerais bien passer à la radio. Je m'appelle Ayoub. Moi, j'ai envie de gagner le concours pour aller voir Paris.
Puis le fait que ce soit à l'oral, ce podcast, qu'il n'y ait pas d'image, ça change un peu aussi. On est dans une société de l'image et on va travailler des compétences de l'oral et c'est quand même aussi très intéressant. On peut faire 5 minutes de petite pause en classe. Vous pouvez aller aux toilettes si vous avez besoin, boire un petit peu. Voilà, soufflez 5 minutes.
Une semaine dans leur vie, signée cette semaine Sonia Princé et Stéphane Ronxin. Rendez-vous demain pour le deuxième épisode.
France Inter. Le 13-14.
Et à 13h50, c'est la France et le lundi, c'est avec vous, Mathieu Avanzi, notre linguiste spécialiste du français régional. Et à quelques jours du 1er mai, vous aviez envie de nous parler, alors pas des revendications, mais des mots du travail.
Oui, parce que les mots ne sont jamais neutres, à commencer par le terme travail lui-même, justement, qui vient du latin tripalium et qui, tenez-vous bien Céline, désignait au Moyen-Âge un instrument de torture composé de trois pieux. Oui. À l'origine, travailler, vous l'aurez compris, c'était donc synonyme de souffrir. Petit à petit, au fil des siècles, l'idée de travail a glissé de la souffrance physique vers la notion d'effort, de peine, puis d'activité difficile. Et ce glissement n'est pas isolé. Beaucoup de synonymes du mot travail ont connu la même trajectoire sémantique. Prenons le mot labeur. Il vient du latin labororis, qui signifie fatigue, peine. Et sinon, on peut aussi parler du mot besogne, qui descend du latin bisogna et qui évoque encore aujourd'hui un travail imposé. Bref, dans l'imaginaire linguistique français, travailler, besogner, labourer, faire sa corvée ou accomplir sa tâche, tout ça rime d'abord avec peine et nécessité.
Et est-ce qu'on retrouve cette idée-là aussi dans les expressions populaires régionales autour du travail ?
En effet, quand on parle du travail dans les régions, on ne met pas seulement l'accent sur la peine ou la difficulté, mais parfois c'est aussi le travail mal fait qui est dans le viseur. Et c'est intéressant parce que le français standard manque de mots directs pour dire travailler en manquant de soins. Pas étonnant donc que ce déficit ait été comblé localement par des expressions régionales souvent très imagées. Prenez par exemple le verbe mascagner. Dans la région de Toulouse, ça veut dire mal travailler. Dans le nord-ouest, l'expression bouiner s'emploie pour désigner l'action de ne pas mettre d'entrain dans son travail. travail. Et puis pour parler du fait même d'aller au boulot, on a en région quelques expressions truculentes. À Bordeaux, si je vous dis que je vais au mail, c'est que je m'embarque pour un boulot physique et pénible. Mais plus largement, dans l'ouest de la France, du sud de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, on utilise des expressions comme embaucher pour commencer sa journée de travail et débaucher pour dire qu'on la termine. Rien à voir avec l'usage du français standard où embaucher signifie faire signer un contrat et débaucher, détourner quelqu'un du droit chemin. Dans l'ouest, on a conservé un usage hérité de l'ancien français. Autrefois, dans le monde rural, on embauchait pour la journée et une fois la journée finie, on débauchait. Alors comme ça, Céline, vous comprendrez peut-être mieux si un jour on vous demande « Tu fais quoi à la débauche ?» ou « Tu débauches à quelle heure ?» Peut-être même vous pourrez répondre « Demain, j'embauche à 7h » ou « J'ai pas envie d'embaucher ce matin parce que j'ai mal dormi. »
Ça, c'est possible, je pourrais répondre ça. Alors justement, ce langage régional, Mathieu, nous éclaire aussi sur la manière dont en France, on a longtemps vécu et ressenti le fait de travailler.
Exactement, toutes ces expressions, qu'elles soient anciennes ou encore vivantes, elles nous rappellent que pendant des siècles, en France, travailler n'était pas toujours une passion ni un accomplissement personnel. Alors ce jeudi, en offrant un brin de muguet, on pourra penser aussi à tout ce simple mot « travail », tout ce qui charrie avec lui, un peu d'histoire, beaucoup de sueur et une immense diversité de façons d'en parler selon qu'on est à Bordeaux, à Brest ou à Lille.
Ben merci Mathieu Avandi, vous n'avez pas mascagné, voilà, je vous félicite. De C'est la France, c'est une chanson et c'est l'écrivain Christian Signol que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier.
Son dernier roman, Elle rêvait d'autres cieux et d'autres matins, est sorti il y a quelques mois chez Albin Michel. Et c'est d'un duo qu'il a souhaité me parler, La rivière de notre enfance, par Garou et Michel Sardou. La rivière est un élément qui compte beaucoup pour Christian Signol et l'enfance également.
Je suis devenu écrivain par mon enfance, c'est-à-dire que dans le petit village où je suis né, dans le Lot, il y avait au fond de la classe une petite bibliothèque de 3 étagères seulement. Mais sur ces 3 étagères, il y avait toute la poésie de Victor Hugo. Ce qui fait que moi, avant l'âge de 12 ans, j'ai lu toute la poésie de Victor Hugo. Et ça a été déterminant dans mon désir de devenir écrivain. Et c'est grâce à la rivière d'Ordogne, que j'ai pu vivre de mes livres après le tournage du feuilleton sur la 2 qui s'appelait La rivière Espérance, donc.
Tiré de votre trilogie.
Tiré de ma trilogie de 1500 pages. Et c'était un feuilleton qui faisait 9 fois 1h40. Ça s'est jamais refait depuis parce qu'ils ont pris énormément de risques quand même. D'autant plus que c'est très difficile et très périlleux de tourner sur l'eau.
Est-ce que vous vous rappelez du moment où vous avez découvert cette chanson ?
Ben, je l'ai découvert quand elle est sortie. Parce que ça m'a frappé tout de suite. La rivière de notre enfance, ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, mais c'est la rivière de notre enfance. Et c'est ça qui m'a frappé, les mots à la fois enfance, rivière, et puis depuis je l'écoute souvent, très souvent.
Pour vous, c'est la Dordogne qui coule dans vos veines ?
Exactement, c'est la Dordogne qui coule dans mes veines, et c'est mon enfance en même temps.
Je me souviens d'un arbre, je me souviens du vent, de ces rumeurs de vagues au bout de l'océan. Je me souviens d'une ville, je me souviens d'une voix, de ces Noëls qui brillent dans la neige et le froid.
Je me souviens d'un rêve, je me souviens d'un roi, d'un été qui s'achève, d'une maison de bois.
Et Frédéric, c'est en 2004 qu'est sorti ce duo.
Une chanson écrite par Didier Barbelivien, dont le refrain réveille par ailleurs chez Christian Signol le souvenir de son père qui était boulanger dans son village du Lot.
Moi, mon père, je le revois danser souvent lors des fêtes de village ou des fêtes familiales. C'était un homme qui travaillait beaucoup, qui se levait à 4h du matin. Puis c'était un homme de la résistance. Il était résistant dans le réseau Veni du Lot qui appartenait au réseau Buckmaster. Et c'était un grand résistant. Donc je le revois danser comme ça de temps en temps, surtout quand j'écoute cette chanson. Et ça me fait beaucoup de bien.
Parce que vous le voyez heureux à ce moment-là ?
Je le vois heureux. Alors que quand il travaillait beaucoup, quoi. Donc le fait de le revoir heureux alors qu'il a disparu, ça me fait énormément de bien.
Mais c'est formidable d'avoir ça comme souvenir de
oui,
son père.
Oui, oui, c'est formidable. Oui, d'avoir un père qui danse, c'est formidable. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pour moi, il n'est pas mort. Voilà. Il est toujours là. Et surtout quand j'écoute cette chanson.
Ce n'est pas sa mort qui me fait la peine, c'est de ne plus voir mon père qui danse.
Votre village, c'est 4 routes du Lot.
Oui.
Tout petit village.
Tout petit, 500 habitants.
Qui a nourri beaucoup de vos livres.
Oui, puisque j'ai eu une enfance très heureuse, parce que je vivais dans une liberté absolue auprès de gens. d'une grande générosité. Et donc, ça a été une enfance très, très heureuse qui m'a beaucoup marqué. Et c'est sans doute pour cela aussi qu'un de mes amis Picat m'a expliqué que je m'étais mis à écrire, c'est-à-dire pour essayer de retrouver tout ce que j'avais perdu de cette époque-là. Parce qu'à l'âge de 12 ans, je suis parti en pension au lycée de Brive. Ça a été une déchirure très, 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 très douloureuse. Donc, je me suis mis à écrire, finalement, pour essayer de retrouver tout ce dont on m'avait privé.
Je me souviens de Londres, je me souviens de Rome, du soleil qui fait l'ombre, du chagrin qui fait l'homme. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance.
Quand vous entendez cette chanson-là aujourd'hui encore, est-ce que c'est ce paradis perdu de votre enfance ?
Ça revient, tout de suite. Tout de suite, je suis replongé dans ce paradis-là et ça me fait du bien.
En fait, il y a une bonne partie de votre vie dans cette chanson.
Oui, je dirais même que c'est toute ma vie, finalement. Hein. Et ces trois mots sont essentiels, c'est-à-dire l'enfance, la rivière et le père. Voilà. Ces trois mots essentiels à ma vie.
C'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort qui me fait la peine. C'est de ne plus voir mon père qui dort.
La rivière de notre enfance, Garou et Michel Sardou, c'était donc Frédéric Pommier, le choix de Christian Signol.
Dont le dernier roman a pour titre « Elle rêvait d'autres cieux et d'autres matins ». C'est publié chez Albin Michel.
Merci Frédéric et bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Céline Asselot.
Au programme de La Terre au Carré.
On va parler nombres avec le mathématicien Étienne Gis.
A tout de suite.